La hussarde.
Ah, Caro, t'es déjà là?
Bah ouais, je réécoutais le premier montage là et je me dis que ça va pas être facile de décrypter les séquences du débat. Écoute le doc 1. Je l'ai appelé Brouhaha.
Moi, jamais je suis allé me planquer dans une salle de commerce avec des responsables syndicaux.
Je suis pas allé me planquer.
Moi, quand je vais voir les ouvriers,
Bah alors, Thomas, t'en penses quoi?
J'écoutais moi aussi et je me disais qu'on avait eu raison de pas prendre des politiques sur ce coup-là et de prendre des journalistes. Ils étaient au cœur du débat, ils ont tout suivi de l'intérieur. C'est intéressant d'avoir leur impression. Bon, on y va. Caro, tu mets ma présentation, on laisse le début tel quel, c'est bien.
Ok.
Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de À la Hussarde, l'émission qui se replonge au cœur de cette saison électorale 2016-2017, cette année de grand chambardement, cette année qui a vu plusieurs générations d'hommes et de femmes politiques blackboulées, cette année au cours de laquelle le paysage politique, ses frontières, sa topographie, ses reliefs ont été radicalement transformés.
Moi, jamais je suis allé me planquer dans une salle de commerce avec des responsables syndicaux.
Je suis pas allé me planquer.
Moi, quand je vais voir les ouvriers, je vais voir les ouvriers.
Madame Le Pen,
je vais au milieu d'eux.
Et moi aussi,
je vais pas me planquer dans une petite salle.
On a compris. On a compris
la grande différence qu'il y a entre vous et moi.
On a compris. On n'a pas compris. On va pas passer 3 heures sur une.
On avait décidé d'y aller parce que vous avez vu que j'y étais.
Demandez aux salariés.
Attendez, c'est inaudible.
Voilà, je crois que nous avons compris le thème de notre émission. Tout le monde a bien compris le débat de l'entre-deux-tours.
Bon, on reprend à la question quand je dis. Mais d'abord, bien sûr, on a envie. Okay.
Mais d'abord, bien sûr, on a envie de savoir comment se prépare un tel débat.
On laisse quand ils expliquent que ce genre de débat est très codifié, que les journalistes doivent rester neutres et que tout est négocié avec le CSA, avec les directions des partis. C'est l'enfer.
Mais on colle l'archive 2 à ce moment-là, du coup?
Non, laisse couler.
Ok.
Bien sûr, on a envie de savoir comment se prépare un tel débat et à quel point ce moment de télévision est codifié et par qui, Nathalie Saint-Cricq?
Alors, il est codifié par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Il faut bien voir que ce n'est pas une émission politique classique comme on pourrait en organiser à TF1 ou sur le service public. On est un peu des passeurs de plats. Deuxièmement,
on va le voir,
des chronométreurs.
On va le voir.
Et tout ça a été fait en dehors de nous, avant, entre les directions des chaînes, les représentants des candidats avec le CSA. Dans toute la cuisine préalable, on n'y assiste pas. Nous, on a simplement le déroulé que nous devons suivre.
Alors, Christophe Jacobusine, vous pouvez quand même nous raconter un petit peu la cuisine préalable?
Effectivement, comme dit Nathalie, c'est très codifié pour deux raisons. D'abord parce qu'il ne faut pas qu'on soit soupçonné de ne pas être neutre. C'est comme le dernier débat. Il oppose les deux finalistes d'une présidentielle dans laquelle ont voté plus de 80% des Français. À ce moment-là, le journaliste politique doit se taire.
Après, on va mettre l'archive et puis le combat commence. Ça commence fort.
Quel est votre état d'esprit? C'est donc à vous, Marine Le Pen.
Somme toute, les Français ont aussi pu voir le vrai Macron, dans ce second tour. La bienveillance a fait place à la médisance. La stratégie marketing a été reprise en main par la machine du PS. Et puis, le sourire étudié se transforme en rictus au fur et à mesure des meetings. L'enfant chéri du système et des élites, en réalité, a tombé le masque, monsieur Macron. Voilà, c'est bien.
C'est donc à vous, Emmanuel Macron, de me donner votre état d'esprit à quelques jours du scrutin.
Écoutez, vous avez démontré que vous n'êtes en tout cas pas la candidate de l'esprit de finesse, de la volonté d'un débat démocratique équilibré et ouvert. Merci pour cette belle démonstration que vous venez de faire, madame Le Pen. Je ne m'attendais pas à autre chose. Moi, je ne vais pas vous dire que vous êtes la véritable héritière, non seulement d'un nom, d'un parti politique, du parti politique de l'extrême droite française, de tout un système qui prospère sur la colère des Français depuis tant et tant d'années.
Caro, arrête là. Après l'archive 3, on peut mettre l'explication. Je crois que c'est quand Nathalie Saint-Cricq dit qu'à chaque fois, Marine Le Pen attaque Macron, puis en fait n'explique jamais ce qu'elle veut elle-même. Ça les étonne quand même. Là, nos deux journalistes, ils sont totalement surpris. Ils savent pas comment vraiment relancer sur le front.
Mais je les comprends. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? C'est comme face aux fake news. T'en expliquer que c'est faux et pourquoi. Une autre info arrive, chasse la précédente et on sait plus où on en est, le vrai, du faux, on est complètement perdu.
Nous, à ce moment-là, on se dit effectivement, ça fait pas débat présidentiel de l'entre-deux-tours. Et on se dit, mais comment on va revenir dans des choses, non pas intelligentes, mais un questionnement cohérent, c'est-à-dire parler des impôts, parler de l'emploi, si ça n'est que de l'invective. Donc à partir de là, on se dit d'abord, elle a parlé très longtemps, parce qu'on a aussi l'obsession du temps.
Bien sûr.
C'est-à-dire qu'on doit donner un temps égal,
tête,
le chronomètre. Ouais. On a, on l'a pas dit, à l'oreillette, deux directeurs de l'info TF1 et de France 2 qui sont là, du genre, ah, vous êtes en retard, ils sont en retard. Et on s'est dit comment on va recadrer ça.
Les
et qui ont même derrière eux les collaborateurs. Donc c'est entre cette tirade, moi je commence à me dire, oulala, ça part un peu bizarrement, comment on va s'en sortir.
Et Christophe, Jacques-Cuisine, qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là?
Oui, surtout que la tirade de Marine Le Pen, la tirade initiale, effectivement, elle représente tout ce qu'elle va faire pendant l'émission, c'est-à-dire qu'elle va tout le temps chercher à attaquer Emmanuel Macron. Ce qui lui a manqué pendant ce débat, c'est de pas mieux expliquer, vendre, si elle le souhaitait, son programme et ses propositions. Elle est tout le temps, effectivement, et dans l'invective,
alors
et dans l'attaque.
Justement.
Madame Le Pen, quelle est votre vision, vous, de marché du travail, de ces améliorations éventuelles?
Monsieur le ministre de l'économie, ou dois-je dire monsieur le conseiller auprès de monsieur Hollande?
C'est votre vision donc du marché du travail, madame Le Pen?
4 ans, d'accord. Vous avez été conseiller économique de François Hollande, puis 2 ans ministre. Mais si vous aviez la recette pour diminuer le chômage,
non,
pourquoi est-ce que vous n'avez pas...
Vous. C'est pourquoi un quinquennat que, pour lequel nous sommes candidats, ça ne dure pas 6 ans.
Pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait profiter monsieur Hollande de vos recettes?
Bon, maintenant on met le son 5. Marine Le Pen porte l'attaque sur l'islamisme, l'UOIF, tout ça, pour essayer de coincer Macron. Et puis on continue avec l'idée de zone trouble. Hein. Et c'est le communautarisme chez Macron, avec le décryptage derrière des deux journalistes.
Ok, je mets le son 5.
Non seulement vous n'avez pas de projet, mais en plus vous avez une complaisance pour le fondamentalisme islamiste. C'est ça peut-être.
Alors,
le problème.
Développez vos propositions.
Parce que moi je pense qu'il faut aussi s'attaquer...
Pas,
développer vos propositions, monsieur
allez,
Macron.
Buvez un coup, ça va aller mieux.
Mais allez-y, madame
Le Pen,
soyez respectueuse comme je le suis avec vous.
Non, mais parce que vous me coupez la parole toutes les 10 secondes à peu près. Je vous sens un peu agacée. Je pense qu'il faut s'attaquer à la racine du mal. La racine du mal, c'est le développement exponentiel du fondamentalisme islamiste sur notre territoire. Il faut évidemment fermer les mosquées salafistes, il faut expulser les prêcheurs de haine, mais il faut aussi s'attaquer aux associations qui vous soutiennent, monsieur Macron, comme l'UOIF. L'UOIF, c'est l'Union des organisations islamistes de France. Non, c'est l'Union des organisations islamistes de France. Car en réalité, c'est une association islamiste qui défend le fondamentalisme islamiste, qui soutient monsieur Macron, qui a invité à chacun de ses congrès, vous entendez, à chacun de ses congrès, des gens qui sont venus exprimer leur haine des juifs, leur haine des homosexuels, leur haine des mécréants, et qui tiennent systématiquement des discours de haine. Monsieur Hani Ramadan, qui justifie la lapidation des femmes, il vous a soutenu aussi. Et quand on vous
mais
a dit... Quand vous, non, quand on vous
et
a dit, monsieur Macron...
Alors là, on n'a pas l'image, moi j'ai revu cet extrait. C'est peut-être le seul moment où Emmanuel Macron se sent un peu mal à l'aise. C'est là qu'on se dit que c'est pas mal qu'il y ait les plans de coupe et qu'on voit d'ailleurs l'autre interlocuteur pendant que celui qui attaque parle. C'est le seul moment où il se sent mal à l'aise, il sait que c'est un terrain dangereux, Nathalie Saint-Cric.
Ah oui, il le sait. Alors moi je me dis, l'UOIF, les gens vont rien comprendre, donc il faut expliquer un peu plus ce que c'est. Je me dis, si je dis organisation proche des frères musulmans, j'aide Marine Le Pen.
Qualifiant,
je lui donne un coup de main pour montrer qu'effectivement Emmanuel Macron n'est pas forcément aussi net qu'on le dit, ce qui est quand même quelque chose qui avait traversé toute la campagne. Et là, effectivement, je le vois. Alors il savait qu'il allait avoir droit à ça, parce que si vous voulez, dans ce débat, on a eu un concentré de tout ce qu'on avait entendu dans les meetings. Donc la controverse, Hani Ramadan, on l'avait déjà entendu, Marine Le Pen l'avait déjà faite, donc il s'y attendait. C'est là qu'il va lui renvoyer des complaisances de Louis Alliot.
Oui.
Mais à ce moment-là, je trouve effectivement que c'est pas le moment. Alors il lui dit, faites vos propositions, mais c'est pas le moment où il... J'attends moi une espèce de démenti scandalisé. Et j'ai quelque chose qui est lui aussi lui renvoyé dans la figure des proximités douteuses. Donc c'est pas le moment le plus concluant pour Emmanuel Macron.
Christophe Jacques-Cuisine.
Ben oui, parce que c'est la zone d'ombre, le flou chez Macron, justement, son attitude. Et on le voit après un an de présidence, Macron, le ver est dans le fruit. C'est-à-dire qu'il a, par rapport au communautarisme, une vision assez libérale, assez... Ce qu'il a fait le discours récent sur, il y a quelques mois,
par rapport
sur
à la
les catholiques. Mais oui, parce qu'en fait, ça le dérange pas tellement, lui, que finalement, que les religions aient un rôle important. Il a demandé aux catholiques, il y a quelques mois, de s'impliquer dans la République. Et au fond, vis-à-vis des musulmans, c'est un peu la même chose. Ça ne le dérange pas, le voile, par exemple. Mmh. Il y a le droit. Hein. Mais du coup, quand Marine Le Pen l'attaque sur ce terrain-là, c'est un terrain sur lequel il sait que l'opinion publique n'est pas en accord avec lui. Et que jamais il a explicité ça.
On ne va pas refaire le quinquennat.
Vous êtes l'héritière d'un système, d'un parti, d'un nom. Moi, je ne suis pas l'héritière de ce gouvernement. J'y ai participé.
S'il vous plaît.
Je n'étais pas d'accord et j'en suis sorti. J'ai démissionné, j'ai quitté le gouvernement, la fonction publique. Donc, vous pouvez me renvoyer constamment à tout ce qui a été fait durant les 5, les 10, les 15 dernières années. Alors, je répondrai de tout ce que j'ai fait, moi. Je ne répondrai pas
avancer,
du reste.
On va avancer, s'il vous plaît. Alors, vous êtes l'héritier de François Hollande.
Alors, on continue jusqu'à l'accident industriel. J'aime bien cette expression. Je ne sais pas si elle est de moi, mais bon, ça ne fait rien. Hein. Je l'adopte, tu ne diras rien.
Non, je suis muette comme une carpe.
Donc, on y est. Le moment clé, elle a perdu.
L'euro, c'est important. C'est la monnaie pour nos concitoyens. Ce n'est pas qu'une politique étrangère. Ce n'est pas que des sujets abstraits. C'est avec quoi on paye. On sort ou pas de l'euro?
Il faut retrouver notre...
On revient au franc ou pas?
Il faut retrouver notre monnaie nationale.
Donc, on revient au franc.
C'est essentiel.
D'accord.
Essentiel.
Donc,
essentiel.
On revient au franc. Donc, vous proposez bien de sortir de l'euro.
Non, je veux renégocier pour que l'euro, on s'en libère et on le transforme en monnaie commune. C'est ce qu'il était avant qu'il devienne la monnaie de la France.
Mais on
Chaque
paiera
pays,
avec de l'euro ou pas?
Que les choses soient très claires. Non, on ne paiera pas avec de l'euro.
Mais personne ne
vous
paiera
le savez
avec
bien.
De l'euro.
Les banques centrales paieront avec de l'euro si elles le souhaitent.
Ah bon?
Les grandes entreprises paieront avec l'euro si elles le souhaitent. Vous le savez très bien, ça a
Donc
existé.
Donc il y aura deux monnaies?
Non, pas pour les Français, pas pour les particuliers, pas pour les petites entreprises. Et vous savez très bien, n'essayez
pas servira l'euro,
de, créer,
alors
de créer cela.
Non mais à quoi servira l'euro?
Mais c'est une monnaie commune, c'est un panier de monnaie, vous
mais
le savez encore
monnaie.
Une fois.
Alors,
ça a existé, ça a existé juste avant l'euro. Juste
ah bon
avant que l'euro devienne notre monnaie physique en France. Et oui,
c'était
et oui, et oui, et oui. C'était l'euro, déjà. Et avant lui, c'était l'écu.
Donc les grandes entreprises, elles payaient en euros en écu avant.
Oui, de 1993 à 2002, toutes les entreprises pouvaient payer, les grandes entreprises pouvaient payer effectivement en euros. Ce système a parfaitement fonctionné. Monsieur Macron, ne faites pas semblant de ne pas le savoir.
Non,
vous le savez très bien, il a fonctionné dans le cadre du SME.
J'y réponds parce que c'est l'inverse de ça. Mais c'est fondamental. Parce qu'une grande entreprise, elle ne pourra pas payer en euros d'un côté et payer ses salariés de l'autre en France, c'est n'importe quoi, Madame Le Pen. Ça n'a jamais existé. L'écu, c'était une monnaie de référence. Personne ne payait en écu. Notre dette, elle sera payée en euros ou en francs? C'est ça la question.
Bon, alors ça, c'est le moment clé du débat. C'est là qu'on comprend qui a gagné et qui a perdu. Même les militants Front National, les plus endurcis ont compris. Alors, de notre côté, du côté du téléspectateur, d'abord, on comprend pas ce que dit Marine Le Pen. Après, on comprend qu'elle-même ne comprend plus. Comment vous vivez, vous, sur le plateau, cette scène?
Nous-mêmes, on ne comprend pas. C'est-à-dire que moi, je me dis, j'ai raté un épisode quand j'étais étudiante. Il y a un truc entre aussi le SME, le serpent, les culs, je sais pas quoi. Il y a un truc que j'ai pas compris. Et au bout d'un moment, quand je vois le sourire d'Emmanuel Macron, qui à ce moment-là a une tête un peu de chat, qui commence à comprendre que la souris est totalement défaillante, mais qui le fait intelligemment, parce qu'au lieu de lui exploser la tête,
il dose bien
en lui disant « Attendez, vous dites n'importe quoi, c'est en faisant... » Auquel cas, il aurait pu être professoral vis-à-vis... Et puis, c'est une femme. Donc, il savait depuis le début que vis-à-vis d'une femme, il faut faire attention parce que les codes sont pas forcément les mêmes que quand on veut exploser un candidat homme. Donc il sourit, lui il la laisse s'enfoncer, il lui demande des précisions et il le fait avec un truc crescendo, mais là à ce moment-là il y a dans son œil une espèce de jubilation absolue qui est de dire là I got it.
Le parti des affaires
nous
ça n'est pas le mien, c'est le vôtre. Le parti
absolument.
Qui ne va pas devant les juges, c'est le vôtre, pas le mien.
Le parti des affaires c'est le mien.
Oui.
Soyez.
Oui,
faites attention à ce que vous dites, monsieur Macron.
C'est la réalité, madame Le Pen.
J'espère qu'on n'apprendra rien dans les quelques jours ou quelques semaines. Parce que vous donnez des leçons.
Oh, vous savez,
vous donnez
beaucoup
des leçons,
ont bien cherché,
personne n'a
y compris vos amis. Beaucoup ont dit du mal.
C'est bon?
Vous remettez. Quand les juges ne vous arrangent pas, vous dites qu'ils ne sont pas honnêtes.
Oui, d'accord.
L'institution judiciaire, elle est forte dans notre pays. Mais oui, Madame Le Pen, ne plaisantez pas avec ça. L'institution judiciaire.
J'espère qu'on n'apprendra pas.
Nous serons, Madame Le Pen.
Que vous avez un compte offshore aux Bahamas ou je sais pas, j'en sais rien.
Non, Madame Le Pen, parce que ça, c'est de la diffamation.
Alors, Christophe Jacques-Cuisine, là, vous entendez une information. Vous êtes journaliste, vous entendez ça, un compte aux Bahamas. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous dites quoi?
Bon, là, on laisse leur analyse sur les fake news, hein, c'est intéressant.
Ah oui, c'est super et c'est super clair, c'est très bien.
Ouais, on comprend comment le Front National essaie de lancer des attaques qui viennent percuter, polluer le débat. Et puis maintenant, on arrive au moment
qui ont voté pour les Français, les Françaises et les Français qui ont voté pour vous, comme pour Monsieur Dupont-Aignan. Je les ai toujours respectés. Je n'ai jamais fait de leçon de morale.
mais je les connais
vous
aussi.
Savez, ça n'est pas eux que vous
j'en
visiez
dans ma
quand
ville,
vous disiez,
dans ma région. Je dis juste,
je
vous dis juste une chose.
Regardez, ils sont là. Ils sont dans les campagnes, dans les villes.
Je parlais de
ils
votre
sont sur les réseaux sociaux.
Et là, c'est le moment de la carte blanche dont parlait Philippot dans l'épisode précédent.
Tu peux me réexpliquer?
Ben, tout le monde s'en souvient, tu veux que je répète?
Ben oui, j'aimerais bien.
Alors, la carte blanche, je t'explique. Marine Le Pen avait demandé ça dans les petites négociations avant le débat, c'est-à-dire 2 minutes chacun à la fin, où ils parlent, chacun choisit son thème. Et sans interruption, il n'y a rien. Et d'habitude, c'est toujours la santé, les vieux, les handicapés, les enfants, des trucs très concernants, tu vois, très, très consensuels.
Oui.
Donc, Macron accepte, il fait sa carte blanche, je crois que c'est sur les handicapés, enfin un truc comme ça. Et puis, quand vient le tour de Marine Le Pen, eh ben, paf, elle retombe dans l'attaque. Elle attaque Macron et elle ne parle pas du tout des... Je crois qu'elle elle devait parler des vieux isolés. Pas du tout. Elle attaque Macron, elle l'a. Au Front National, ils disent non, mais elle a perdu les pédales, le débat est foiré, quoi. Voilà. Ouais.
Regardez, ils sont là. Ils sont dans les campagnes, dans les villes.
Là, c'est bizarre parce qu'en fait, on entend même sans l'image, on voit qu'il y a un basculement. Elle bascule, de, je sais pas de quel côté de la force, mais on la perd. En fait, on la perd. C'est nerveux. Non, mais c'est vrai.
Vous chantez sur
ça.
Le plateau aussi.
Ah oui, oui.
Alors, en plus, elle se tourne. Moi, dans mon souvenir, peut-être que mon souvenir est confus, mais dans mon souvenir, elle ne le regarde plus, Emmanuel Macron. Elle bouge sur la chaise.
Ouais.
Et puis.
Ouais, il fait les grands gestes.
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Qu'il y avait,
effectivement.
Heureusement qu'il y avait des plans de coupe parce que.
Je me dis, il se passe quelque chose, elle est bizarre.
La tête d'Emmanuel Macron, là, on voyait qu'il se contrôlait, qu'il fallait pas qu'il montre quand même sa grande satisfaction, mais là, il comprenait qu'il avait écrasé.
Absolument, et je pense que s'il n'y avait pas eu la tension du débat et tout, je pense qu'on aurait été capable de rire.
Stop! C'est bon, je crois que c'est bon. Ouais, c'est bon.
Je souhaite, dans 15 jours,
à demain, Thomas.
Devenir votre
à demain,
président.
Oui.
Le moment est venu.
Je dois m'interroger sur ceux qui fuient le navire.
J'ai échoué à déjouer le désastre qui s'annonçait depuis plusieurs années.
Du bleu au bleu marine, Nicolas Dupont-Aignan annonce qu'il soutient la candidate Front National.
Après tout, personne n'est obligé.
66% contre 34% pour le FN, Emmanuel Macron, 39 ans, le plus jeune président de l'histoire.
En mars, c'est nous.